Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, qui cantine aujourd'hui dans tous les sons et dans tous les sens.
En direct du studio 511, une émission dont la réalisation a été surveillée par Jérôme Chélius, assisté de Lucie Valérie dans les coursives et le gardien de console Loïc Frapsos à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, les clés de la réussite. Quand les services publics se serrent la ceinture, il est un secteur qui ne connaît pas la crise. Devenez surveillant de prison, un métier d'avenir. Et de l'autre côté du manche, à vos gamelles, vaisselles et réchauds, pour un retour aux fondamentaux, partager un repas et changer le monde avec les cantines politiques, solidaires, sauvages, autogérées et à prix libre.
Moi, je me dis qu'on ne peut pas se dire qu'être surveillant, c'est une vocation. On ne se dit pas depuis tout petit, moi, je rêve d'être surveillant. Je dis que c'est plus un choix, oui, avec le monde du travail.
Quelqu'un m'a dit un jour qu'ici, la cantine, c'était le moyen de se donner des informations pour tous les gens qui n'ont pas de téléphone. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas de quoi payer les puces. Et donc, c'est un lieu aussi pour donner faire parcourir de l'un à l'autre les messages à la rencontre.
C'est
quoi,
un retour au réseau social de proximité, quoi.
Ouais, ouais.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux, les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, qu'en termes d'égalité homme-femme, notre pays a encore un long chemin à parcourir. Selon la dernière estimation d'Eurostat, les écarts de rémunération entre les deux sexes avoisinent les 16%.
Tandis que les filières où les femmes sont les plus nombreuses sont, comme par hasard, les moins bien payées.
Et si l'égalité homme-femme a été déclarée grande cause du quinquennat par Emmanuel Macron, les progrès à réaliser ne sont pas que d'ordre salarial. À entendre Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, lors de la cérémonie d'intronisation de sa nouvelle secrétaire d'État le 25 novembre dernier, on se dit que le chemin est encore vraiment très long pour faire changer les mentalités.
Je suis ravi d'accueillir comme ministre de l'économie et des finances notre nouvelle secrétaire d'État, Delphine, soit la bienvenue, Benjamin Griveaux, est très heureux d'accueillir Delphine dans cette belle maison.
Bienvenue, chère Delphine. Delphine, si tu as un jour rêvé de changer ton pays, assurément, tu es au bon endroit. L'industrie, chère Delphine, Delphine.
Et oui, alors que Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, est affublé de son patronyme complet, pour la secrétaire d'État, il semble que le prénom suffise. Un bel exemple de paternalisme ordinaire. Alors nous, cette semaine, on va sortir des schémas traditionnalistes. Et avec Antoine Chao, on va aller à la cantine. Mais pas n'importe quelle cantine, une cantine politique.
Oui, la cantine des Pyrénées dans le 20e à Paris. 20e arrondissement, un lieu de résistance locale contre le sexisme, l'exploitation et le racisme. Et c'est Michel, Souad, Mehdi, Atoumata, près du Leila qui cuisine.
Mais avant d'aller s'ouvrir l'esprit et l'appétit, c'est dans le monde clos de la prison que Guy Van Til nous emmène à la découverte d'un bien beau métier, surveillant de prison.
Oui, parce que l'éducation nationale, de son côté, va réduire ses recrutements d'enseignants dans les collèges et les lycées en 2008. C'était dans le journal officiel ce mercredi. Mais alors que beaucoup de services publics se serrent la ceinture, il est un secteur qui ne connaît pas la crise et qui embauche la prison. Alors on vous épargnera les raccourcis faciles face à cette réalité budgétaire. Moins de professeurs, plus de gardiens de prison, ou les citations disant « ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Mais il n'empêche qu'avec les 15 000 nouvelles places d'enfermement qui doivent être construites, l'administration pénitentiaire, après avoir déjà embauché en 2005, recrute en ce moment plus de 1000 surveillants. Vous n'avez pas pu rater les campagnes d'affichés dans toute la France avec des slogans « Un métier juste, fier de servir la justice ». Alors on a vu pour une fois aller voir l'enfermement avec les yeux des surveillants, l'ordinaire de la prison avec ceux qui commencent tout juste ou ceux qui sont plus aguerris. Surveillants de prison, un métier d'avenir.
Comme un bruit qui court et qui cantine aujourd'hui, c'est jusqu'à 17h sur France Inter et c'est parti.
Un certain nombre de personnes sont détenues. La France ne peut pas être fière des conditions dans lesquelles un certain nombre de personnes sont détenues sur son territoire.
Ils sont 69 375 à vivre derrière les barreaux.
Avec un taux d'occupation qui, en moyenne, s'élève à 139%.
Que 58 311 places opérationnelles.
C'est pourquoi j'ai le projet de créer, dans le cadre des travaux que la garde des Sceaux aura à conduire, une agence pour encadrer et développer le travail d'intérêt général pour que l'enfermement ne soit pas le seul horizon. Pour que l'incarcération ne soit pas le terreau des extrémismes, des vies échouées, des destins brisés.
Comme un bruit qui court.
Guy Van Til.
Charlotte Perry.
Antoine Chao.
Hashtag comme un bruit.
L'ambiance est parfaite. Un matin pluvieux fin novembre, froid et l'humidité, et nous voici à Dijon devant un vieux bâtiment public, direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon, la prison de Dijon. Et on voit devant, dans la cour intérieure, deux tours en pierre, une vieille horloge, mais ça saute pas aux yeux que c'est une prison. Bonjour. Tout seul.
Bonjour, je viens pour la commission de discipline.
Bonjour monsieur.
Vous avez un téléphone?
Je l'ai mis dans le casier là-bas. Bonjour madame.
Bonjour monsieur le journaliste.
Bonjour, enchanté.
Enchanté, vous me suivez?
Oui, avec plaisir. Dans une zone très impressionnante. On voit vraiment l'architecture du 19e siècle.
Tout à fait.
Et on est dans une nef, exactement.
Au niveau de la circulation, donc on a l'accès aux différents bâtiments.
C'est-à-dire que c'est ici le point central d'où partent toutes les branches.
Voilà, et puis l'agent qui se trouve au niveau du poste, lui, gère l'ouverture électrique de toutes les portes donnant accès aux différents bâtiments.
C'était ça ce qu'on appelait l'architecture panoptique?
Oui. Tout à fait, on est vraiment dans ce type d'architecture hein, où
c'est d'un point, c'est on voit tout.
Voilà, on voit tout, tout est ouvert et tout le monde se voit.
Une vaste coupole au-dessus et on voit à droite et à gauche sur trois étages. Donc si on récapitule, à droite c'est les mineurs.
Alors le B effectivement héberge les mineurs hein, au rez-de-chaussée. Et après au-dessus vous avez des étages d'hébergement.
Ça, c'est pour les détenus qui font des... Alors, en maison d'arrêt, c'est là où il y a les transits, ceux qui sont en attente du jugement, ceux qui sont entre deux établissements et ceux qui purgent des peines assez courtes.
Des courtes peines, tout à fait. Hein. C'est à peu près 2 ans. Pour la maison d'arrêt de Dijon, la durée moyenne de détention, c'est 4 mois 20 jours.
Donc là, les mineurs...
On se place.
Au-dessus, ça, c'est la population carcérale normale.
Classique, hein.
Dans le bâtiment, l'autre aile, là, c'est les femmes.
Avec aucune visibilité sur le quartier homme. Hein, donc,
Derrière nous, c'est l'hôpital et l'hôpital psychiatrique.
L'unité somatique et psychiatrique.
On entend des voix là quand même.
Oui, donc alors, vous avez des détenus en promenade. Hein.
Ah oui.
C'est les mineurs. Hein, là.
Oui, on voit 5 minots d'ailleurs qui sont là. Même malgré la pluie, ils se mettent dehors parce que c'est quand même déjà d'être dehors.
Ouais, parce qu'il faut prendre aussi l'air, hein, parce que rester en cellule... 24 heures sur 24, ça peut être quand même assez pesant, donc ça fait quand même toujours du bien de sortir et puis de voir les copains ou autres. Hein. La nourriture est distribuée, le repas du moins est distribué en cellule. Hein.
C'est à quelle heure les repas ici?
À partir de 11h, hein, 11h15, puis le soir vers 17h45.
Ah oui, c'est assez tôt.
Distribué. Comment ça distribuer?
Parce c'est à l'heure anglaise.
Parce qu'en fait, à 19h, il faut que les portes soient fermées. Voilà.
Plutôt que de mettre moins de gens en prison, on construit plus de places. Et c'est vrai que la surpopulation carcérale bat des records à chaque comptage, comme ici, à la maison d'arrêt de Dijon, où on en est à 170%, près de 3 détenus par cellule de 9 mètres carrés, ce qui compromet à la fois les conditions d'incarcération et les possibilités de réinsertion à la sortie. Ajoutez à cela qu'à d'après l'OIP, un quart des détenus relèverait de l'hospitalisation psychiatrique plutôt que de la prison. la réalité du quotidien entre ces murs, dans ces grondements permanents, des sons de l'incarcération, font vite valser les certitudes faciles du tout carcéral. Et ici, le directeur n'élude pas qu'en janvier dernier, un détenu s'est suicidé, qu'en novembre, un détenu a pris un surveillant en otage. Alors si on parle souvent de la prison pour dire comme elle va mal, ce samedi, on a voulu rencontrer ceux qui choisissent de passer leur vie derrière les barreaux, ou presque. Surveillant de prison, les clés de la réussite.
On parle de surpopulation carcérale, l'expression consacrée pour désigner le nombre de plus en plus important d'hommes et de femmes détenus. Mais selon une source pénitentiaire, la construction de nouvelles prisons prend en moyenne 10 ans. Il faut également compter 200 000 euros par cellule pour une maison d'arrêt de 500 places.
Vous avez deux élèves.
Ah bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes en stage là, vous, c'est ça?
Stage de mise en situation. Bon, moi je me prénomme Ingrid et j'ai 25 ans.
Megan, 25 ans aussi.
Et on est à l'école Alénap à Agen.
C'est l'école nationale de l'administration pénitentiaire.
Oui, voilà. Et puis le 5 mars, prise des fonctions.
C'est dans quelques mois ça?
Oui.
C'est votre première confrontation à la prison.
Une bonne maison d'arrêt pour prendre en main le métier, c'est vrai ça.
Pourquoi?
C'est une structure qui est assez petite, donc ça permet de bien pouvoir prendre ses marques pour débuter.
Parce que moi je vous avoue, c'est un peu impressionnant, le bruit, le son, ces perspectives-là qui se dessinent d'un côté à l'autre avec ces barreaux, ces grilles, ces filets, ces barbelés autour.
Mais vous savez, bizarrement, je me sens plus en sécurité ici que dehors, parce que on a nos clés.
Et là, pendant ce temps-là, il y a des détenus qui sont en train de remonter,
qui s'en occupent. Donc, moi, je trouve qu'on est en sécurité ici, parce que dehors, on est vraiment confronté à un peu de tout, tandis qu'ici, il suffit qu'il se passe quelque chose, il y a des surveillants qui vont intervenir, ils vont venir en masse. Donc, moi, je trouve qu'on est en sécurité ici. Mais c'est vrai que le bruit, si on n'est pas habitué au début, voilà.
Alors, dites-moi l'une et l'autre, comment vous avez choisi d'être surveillante pénitentiaire, gardienne de prison?
Moi, je me dis qu'on ne peut pas se dire qu'être surveillant, c'est une vocation. Je ne se dis pas depuis tout petit, moi, je rêve d'être surveillant. Je dis que c'est plus un choix, oui, avec le manque du travail. Et, moi, avant, j'étais en gendarmerie pendant 5 ans. J'ai essayé de passer le concours de sous-officier, j'avais échoué. Et j'ai tenté celui de la pénitentiaire et j'ai réussi. Donc, je me suis embarquée dans cette aventure. Voilà.
Et vous, alors, c'est pas une vocation non plus?
Ah non, c'est pas une vocation. On ne devient pas surveillant, c'est pas un rêve de petite fille. Moi, c'est un choix aussi très réfléchi. Et
vous aviez fait d'autres métiers avant ou d'autres voies professionnelles?
Oui, moi j'étais dans l'éducation nationale avant. J'étais assistante pédagogique dans un collège dans le Doubs.
Ah oui, est-ce que ça a rien à voir ou est-ce que ça a un peu à voir?
On gère de l'humain, ils n'ont pas le même âge, mais il faut s'adapter. Ça demande de la communication, de la compréhension. Donc, sur certains points, ça peut se rejoindre.
Et le fait d'être des femmes, ici, dans cet univers qui est ultra majoritairement masculin?
Moi, je dirais que c'est un plus. Lorsque je me dis qu'un détenu homme qui sait que voilà, il y a une surveillante, il n'aura pas la même approche qu'avec un surveillant. On est là pour pouvoir, amener de la douceur, mais temporiser les choses.
Marie et Mickaël travaillent à la prison de Montchouconin. Aujourd'hui, ils font équipe.
Bonjour, je suis Antoine, surveillant pénitentiaire. Je vais vous parler de mon métier. Un beau métier, un métier juste. Là, je pilote l'ouverture des portes des différents couloirs. Je surveille tous les mouvements et les déplacements dans l'établissement. Au parloir, les personnes détenues rencontrent leurs proches. Je m'assure que leurs échanges respectent le règlement et les conditions de sécurité. Je surveille leur comportement. En fouillant régulièrement les cellules, je veille à la sécurité des personnels, des détenus, mais aussi de l'établissement.
Et c'est un emploi d'avenir, non?
Voilà, il y a beaucoup de postes.
Parce que là, il y a une grande campagne pour embaucher, parce qu'on va construire plus de prisons, parce que comme celle-ci, je crois que c'est 170% dans le quartier homme de surpopulation carcérale. Donc on va construire des prisons, et je crois qu'il y a prévu d'annoncer en début de l'année prochaine 15 000 nouvelles places derrière les barreaux. On embauche avec une stabilité de l'emploi.
On a besoin de monde. On a besoin de monde. C'est ça qu'il faut comprendre et il ne faut pas avoir peur de ce métier.
Et se dire aussi que derrière, on est fonctionnaire. On travaille pour le ministère de la Justice. Donc
Une garantie de l'emploi par les temps qui courent, c'est pas mal.
Voilà.
Voilà. C'est une fierté aussi. C'est une fierté de servir l'État et la justice.
Oui, c'est un des logos, je crois, justement, de la campagne de recrutement. C'est fier de servir la justice.
Tout à fait, c'est ça.
Bon, bah, vous êtes en plein dedans, alors, c'est bon.
Ben oui, voilà.
Et il y aura, de toute façon, il y aura toujours de l'emploi dans ce secteur.
Ah oui, il y en a. Il y a de la place.
Il y a du chômage partout, mais...
Pas ici.
Et bon courage, alors.
Oui, merci.
Fier d'être vigilant.
Fier d'être responsable.
Fier d'être respectueux.
Fier d'être à l'écoute.
Fier d'être déterminé.
Fier d'être juste.
Fier
de servir la justice.
Le ministère de la Justice recrute et forme des surveillants pénitentiaires.
Connectez-vous sur devenirsurveillant.fr.
Monsieur le directeur, il fallait qu'on vous dise qu'on est de sale humeur. On a la mine grise, car depuis des années, on ne va plus en boîte. Et puis danser tout seul, c'est pas vraiment l'éclate. Il me vient une idée pour que tout cela cesse, pour que tout le monde retrouve un peu de joie.
Ah oui, laquelle?
Mettez donc ces chapeaux, envoyez la musique et on y va.
Non, mon directeur.
C'est la fête à la prison. C'est la chouille, chouille, chouille dans les cellules.
Allez, tout le monde fait la fête.
Les dollars et les matons. Ce soir, tout le monde est octambule.
Allez, allez.
Sur les barreaux,
il y a des guirlandes.
Au fond des douches,
il y a des guirlandes.
Et dans le mitard,
il y a des guirlandes.
Sur Francis Hollande,
il y a des guirlandes.
Car d'habitude, on nous les fait faire.
Ah oui,
mais ce soir, c'est nous qu'on s'en sert.
8212, pose tes haltères, elle fait la basse.
C'est la fête à la prison. On oublie les peines et les rancunes. Serpentins et cotillons, chacun danse avec son chacun.
Ah, un bruit qui court.
On va aller faire un tour.
Ouais. Hop, on a réussi à attraper la porte avant qu'elle se ferme. Et on quitte le noyau central, là. Pour aller dans une des ailes.
Vous allez entendre le bruit d'une clé, hein, puisque c'est le surveillant qui seul peut ouvrir l'accès entre les mineurs et les hommes. Donc là, c'est une équipe dédiée, formée aussi à la gestion des mineurs.
Voilà. Monsieur le directeur,
Monsieur Bensassi,
bienvenue.
Voilà.
Bonjour.
Monsieur Bensassi, surveillant du quartier mineur depuis maintenant 10 ans. Donc, j'ai fait pile poil 10 ans de quartier majeur et 10 ans de quartier mineur. Donc, comme on dit, on sévit ici sur le quartier mineur. On œuvre plus particulièrement. Donc, avec mon collègue.
Oui, ça passe mieux quand même, œuvre, oui, que sévit.
Bah, ça, c'est pour le fantasme. Souvent, les gens fantasment la prison, donc ils pensent que nous sévissons, alors que plutôt nous œuvrons.
Oui, il y a l'image du maton.
Exactement. Donc, nous ne sommes plus des matons, nous avons été des matons. Nous sommes des surveillants. Pour le quartier mineur, un peu plus spécifiquement, puisque là, on a comme malgré tout un public
à partir de 13 ans.
À 13 ans. Majorité pénale, 13 ans. Aujourd'hui, on en a un qui a 14 ans. Donc c'est vrai que 14 ans, lorsque vous ouvrez une cellule et vous avez un jeune de 14 ans, vous avez affaire à un enfant.
La délinquance des mineurs a augmenté de 80% sur les 10 dernières années.
Gouvernement après gouvernement, ils ont tous enchaîné les annonces.
Est-ce que les tribunaux correctionnels apportent aujourd'hui la bonne réponse vis-à-vis des mineurs? Non.
Je veux réformer la justice des mineurs. En lui donnant plus de moyens.
Et depuis des années, les prisons comptent toujours plus de mineurs entre leurs murs. 769 jeunes incarcérés en début d'année, du jamais vu depuis 14 ans. 871 mineurs en cellule, plus 14% en un an.
Donc si le juge décide d'incarcérer un mineur de 13 ou 14 ans, c'est que les faits sont relativement graves et que toutes les alternatives à l'incarcération, vraiment, on a tout essayé. Le mineur, à un moment, il faut faire ce qu'on appelle... lui rappeler la loi et lui rappeler que c'est terminé, le freiner dans sa spirale délinquante, parce que le problème, c'est que s'il est dangereux à l'extérieur, nous devons le garder, mais nous devons le préparer à une ressortie.
Qu'il ne ressorte pas plus dangereux qu'il n'est rentré.
Après, avec mon collègue, c'est ce qu'on essaie de faire. Que tous les mineurs qui arrivent chez nous en ressortent meilleurs. Sauf que, on le sait pertinemment, le taux de récidive est quand même relativement énorme. Donc on les revoit, hélas.
Il y en a que vous avez revus souvent ?
Hélas, on les revoit deux fois dans l'année. Bon, après, le souci, c'est qu'après, on les revoit aussi, mais en majorité.
Ah oui, dans le reste de la prison.
Exactement, on les recroise.
Chez les adultes.
On les recroise chez les majeurs. Et donc là, quelque part, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, on est sur une problématique de société.
Et alors justement, quand vous les voyez revenir, s'ils reviennent, s'ils sont à nouveau condamnés, s'ils repassent encore ici, derrière ces barreaux, comment vous le vivez en tant que surveillant ?
Alors, en tant que surveillant, je ne suis pas, moi, responsable de ce qui se passe à l'extérieur. Puisque tant qu'ils sont ici, je suis désolé, ce sont des bons petits gamins. Quand bien même certaines fois, il y a des petits problèmes, mais ça reste des bons petits gamins, ici.
Donc, comme quoi, il y a quelque part où ça ne marche pas.
Bah c'est ça, vous avez tout compris, c'est que dehors, le cadre ne tient pas. Et donc, est-ce que c'est la société qui est problématique ? Actuellement, du coup, on a des mineurs qui ont souffert, écoutez, presque SDF. Hein, donc, lorsqu'ils arrivent ici, malgré tout, ils ont un semblant de normalité. C'est bizarre quand même que la prison soit la normalité pour eux. Cet espace carcéral pour les mineurs, pour eux, ça leur fait du bien. Et on le voit parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est des mineurs qui ont peur de l'extérieur, en fait. Mais d'ailleurs, souvent, ils le disent, hein, et heureusement que je ne suis pas dehors. Et certains mineurs nous le disent, non, je ne suis pas dehors. Je préfère être en CEF. À tel point que les placements en CEF, en centre éducatif fermé ou en centre éducatif renforcé, les mineurs, du coup, les refusent. Le directeur, du coup, est choqué. Ils préfèrent la prison parce qu'il y a un cadre. Il y a un cadre. Et il nous connaît. Parce que nous aussi, il y a une proximité avec mon collègue Fred. Comme on est toujours deux.
Il y a celui qui est en uniforme et celui qui est en jogging.
C'est comme à la police. Il y a le méchant et il y a le gentil. Aujourd'hui, je suis le méchant.
Good cop, bad cop.
Voilà. Tout à fait. D'habitude, faut pas suivre aux apparences. C'est moi le gentil. Et mon collègue en survêt est un peu plus méchant.
Il y a bien des alternatives comme ces centres éducatifs fermés, créés en 2002. Et pourtant, un juge qui voit un jeune pour la première fois devant lui opte pour la case prison presque une fois sur deux. Sauf qu'en même temps, les juges pour enfants hésitent bien moins qu'avant à mettre sous les verrous des mineurs par prévention et non suite à une condamnation. Cet été, 7 mineurs incarcérés sur 10 attendent derrière les barreaux d'être jugés.
Il faut que l'incarcération soit à la marge. Si on est une société qui n'est pas capable de faire de l'éducatif avec des simples voleurs de bagnole, c'est qu'on est en échec.
Après un passage en prison, 3 mineurs sur 4 ont à nouveau affaire à la justice dans les 5 ans qui suivent leur sortie.
Là, on est sur l'étage supérieur et on est entre les filets et les coursives de la rotonde. Et on passe à chaque fois les grilles, ces bruits permanents, des portes qui claquent, qui ouvrent, qui bipent, et quelques voix qui s'interpellent. Note à la population pénale. Objet, port de la carte de circulation pour tout mouvement en détention. Aucun accès à la promenade ou à la zone de parloir ne pourra être autorisé à une personne détenue qui ne présentera pas sa carte de circulation lors de sa mise en place. Bonjour. Bonjour, France Inter.
Johan, 22 ans. Élève surveillant stagiaire. Et là, pendant 2 mois, stage de mise en situation avec les clés et à Dijon.
Et si vous avez les clés dans les mains.
Voilà, avec les clés, oui. C'est une très lourde responsabilité, oui, surtout de ne pas les perdre, surtout, primordial. Et sinon, voilà, on s'y fait vite.
C'est vrai ?
Ouais. Bon, au début, avant de rentrer, on a beaucoup d'appréhension. On se pose des questions, comment c'est, si c'est vraiment comme dans les films, surtout. Alors que non, pas vraiment, c'est pas du tout comme on voit dans les films. C'est pas, y a pas de violence tous les jours,
C'est pas Prison Break.
Voilà, c'est pas Prison Break, non, c'est pas ça du tout. Après, il y a beaucoup de relationnel aussi. Au niveau rationnel, c'est beaucoup. Sinon, voilà, c'est... Ouais,
je sais pas. Et là, je vois, il y a une porte et une petite lumière rouge qui s'est allumée aussi de la salle de classe. Et j'ai entendu toc-toc-toc, ça veut dire quoi ?
Ça, c'est quand ils veulent souvent nous demander un truc, soit sortir, comme là, ils sont en formation, soit aller faire une pause pour aller aux toilettes. Souvent, c'est pour faire une demande.
D'accord. Bah, merci beaucoup.
Voilà, de rien, bonne journée à vous.
Bonjour.
Bonjour. Ah d'accord, c'est un sort de cours là. Non, il n'y a pas de caméra, vous inquiétez pas.
C'est un cours de bureautique là. Ah.
On parle de surpopulation carcérale, l'expression consacrée pour désigner le nombre de plus en plus important d'hommes et de femmes détenus. Depuis le 1er juillet 2016, leur nombre a atteint un triste record. Ils sont 69 375 à vivre derrière les barreaux. Les 188 prisons que compte le territoire français ne proposent pourtant que 58 311 places opérationnelles.
Cette surpopulation engendre,
Adeline Hazan,
en elle-même, détention,
contrôleuse générale des lieux de privation de liberté.
Des phénomènes justement de violence entre les détenus et les surveillants, et puis détention qui sont le terreau justement d'une forme de radicalisation des esprits au sens large.
On passe encore des sas et des portes, ça n'arrête pas. Ah là, tout de suite, on rentre dans une partie plus calme. Il n'y a plus cette sensation d'écho. Ici, c'est quelle partie ?
Donc, on est au quartier disciplinaire et d'isolement.
D'accord, donc c'est pour ça que tout de suite, c'est le volume sonore baisse d'un cran.
Voilà, là, il y a un certain nombre de grilles qui marquent un peu la coupure, en fait, entre le quartier d'isolement, qui est donc au premier niveau, et le quartier disciplinaire, qui est un peu plus au fond.
C'est la prison dans la prison.
C'est, oui, si on peut dire, hein, on est même dans l'essence même du disciplinaire. Hein, parce que finalement, c'est une des dernières armes qu'on dispose, justement, pour essayer de réguler la détention.
Et comment je vous présente d'ailleurs, monsieur le directeur ?
Bien, donc Joseph Colli, donc je suis le directeur de la maison d'arrêt de Dijon. J'entame ma 24e année au sein de cette administration. Hein.
Là, c'est votre combienième prison, là, monsieur Colli ?
Là, ça doit être mon cinquième établissement. Ah non, ça fait c'est le septième. Septième établissement, donc c'est vrai qu'avec le temps, on ne compte même plus. Hein.
Vous ne comptez pas les jours, vous, à la différence de ceux qui sont de l'autre côté des barreaux ?
Alors l'avantage, en tout cas, que j'y vois, c'est que je me suis jamais ennuyé, en fait, dans ce que j'ai pu faire dans cette administration. Hein. Je pense que c'est aussi important de s'épanouir. Hein.
Mais là, c'est surprenant ce que vous me dites, parce que l'épanouissement au travail, dans la prison, ça saute pas aux yeux. C'est pas évident, a priori.
Oui, mais je pense que c'est comme dans la vie. Hein. Il faut trouver un sens à ce qu'on fait. Comme tout fonctionnaire, donc on est censé appliquer la politique.
Or, la politique, depuis quelques années, c'est une augmentation du pourcentage même de la population qui est incarcérée par rapport à avant, ce qui amène des situations comme celle qu'on a ici de surpopulation carcérale, mais plus généralement d'un traitement où l'outil pénitentiaire prend de plus en plus de poids dans la gestion de l'insécurité, mais aussi de la misère, mais aussi de la casse.
Les mots, hein, le voiture balai, hein, c'est ça. Je dis, il s'agit de traiter un peu tous les mots qu'on peut trouver dans la société. Il faut apporter des réponses aux maux dont peuvent souffrir les personnes qui sont incarcérées.
Sauf qu'on n'est pas dans une société très inclusive en ce moment, on est dans une société qui fait de la casse sociale, qui fait de la tension sociale.
Tout cela, vous le retrouvez ici, hein, puisqu'on est dans une micro-société, hein, dans un milieu fermé. Et effectivement, on parle de concentration aussi, hein, de problèmes qu'il faut traiter au cas par cas.
Parce que là, on construit des nouvelles prisons, mais ce que vous dites, vous, les professionnels, et beaucoup de professionnels de la prison, c'est vive les peines alternatives à l'enfermement.
Parce qu'elles existent.
Après, et parce que parfois, elles sont plus efficaces.
Voilà, et je pense qu'il faut les développer, mais aussi, il faut que la société aussi soit prête à accepter ces peines alternatives. Hein, donc, c'est pas toujours évident pour une personne victime de voir l'agresseur sortir au bout de quelques mois, mais voilà, bien qu'étant alternative, ça reste quand même des peines.
C'est plus facile au café du commerce de dire il faut tous les foutre en prison, au newf, et puis on n'en parle plus.
Oui, sauf que ça ne règle pas le problème, parce que ces personnes-là, c'est la question de la récidive aussi.
Et si vous envoyez souvent des détenus qui reviennent ?
Il y en a effectivement qui reviennent. Ouais. C'est important.
Mais ce que je retiens, monsieur Colli, c'est que vous vous dites, en tant que directeur qui a fait plus de 20 ans d'expérience, qui a commencé surveillant, c'est qu'il ne suffit pas d'enfermer les gens pour que la société aille mieux.
Je suis certain. Je suis certain sur ce point-là, parce que les enfermer n'est pas une solution. Hein. Je pense que si ça l'était, ça se saurait depuis longtemps. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi dépasser ce côté enfermement et essayer du moins d'anticiper sur la sortie, parce que c'est là, je pense, qu'on pourra être plus efficace et permettre aussi à la société de garder sa tranquillité, parce que c'est aussi ça l'enjeu, parce qu'on est censé quand même les garder pendant leur temps d'incarcération. Donc autant.
Oui, vous n'avez pas eu d'évasion, assurément.
Alors, Non, pas d'évasion. Hein, donc il n'est pas question de qui nous en manque. Hein, donc voilà, ça c'est.
Pendant ce temps-là, on passe des sas et des grilles. ça s'ouvre d'un côté et de l'autre. Ah, et là, on s'entend tout d'un coup, il y a de l'air qui arrive, un courant d'air parce qu'on est en train. Ah oui, c'est le mur d'enceinte, c'est ça.
L'argent n'a pas d'odeur, mais la prison en a une. Tu manges cher, tu douilles cher, pour toutes tes lacunes. Y'a ceux qui sont de passage, et ceux qu'on allume. Combien de fois ma tête se fait la belle, au clair de lune. Toujours rappelé par la pesanteur, comme une enclume. J'ai déjà la tête dehors, tous mes sens se rallument. J'serai plus sous peu dans ce qu'elles sont, dans cette putain de bulle. J'compterai plus les jours, les premières heures sont sans calcul. Ma vie sera ailleurs, comme tous ceux qui sont ici. Les heures d'attente, les bruits de clés, sa mère c'est fini. La liberté aujourd'hui pour moi résonne comme un cri. C'est un jour spécial, c'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. La liberté aujourd'hui pour moi résonne comme un cri. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est un jour spécial, c'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour aujourd'hui. Mon jour de sortie. Mon jour de sortie.
Et là on repasse. Ah ben je vois la rue là au bout derrière. Et là, on sort, on repart passer le sas. Au revoir.
C'est comme un bruit qui court samedi après-midi.
Voilà. Excusez-moi, la sortie de mon téléphone portable. Dans le sas. On est dans le sas, on attend de sortir.
Amis chômeurs, précaires, intérimaires, vous rêviez d'un emploi stable et épanouissant ? Eh bien voilà, vous savez désormais où postuler.
En tout cas, si vous en avez vraiment envie, si vous n'avez pas de casier judiciaire, avez entre 19 et 42 ans, un brevet et êtes apte physiquement, les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu'au 12 décembre 2017.
Et il est maintenant temps de faire sauter les barreaux, de nous ouvrir l'esprit et l'appétit. Antoine, tu nous emmènes à la cantine, mais pas n'importe quelle cantine.
Oui, c'est le premier épisode d'une série sur les cantines politiques contemporaines. Qu'elles soient solidaires, sauvages, autogérées, à prix libre, elles existent et naissent un peu partout pour nourrir le ventre, l'esprit, la solidarité et les luttes sociales. Dans les ZAD, autour des campements de migrants, à Calais, à Marseille aussi, et dans d'autres quartiers, s'organisent des espaces où cuisiner, manger et lutter se conjuguent au quotidien. À prix libre, on vient, on mange, on laisse ce que l'on peut, ce que l'on veut, pour que l'endroit vive et pour que l'aventure continue, grandisse, inspire et que les initiatives se multiplient. Cette semaine, on va à la cantine des Pyrénées, née d'un collectif créé en 2011, juste après la grande mobilisation contre la réforme des retraites de 2010. Après avoir occupé un restaurant rue des Pyrénées, le collectif a posé dernièrement ses fourneaux rue de la Mare, toujours dans le 20e arrondissement de Paris. Au-delà d'une simple cantine où l'on peut manger à midi, du lundi au vendredi, à prix libre, c'est un lieu de rencontre, un espace ouvert sur le quartier, pour un retour aux fondamentaux, partager un repas et changer le monde, quand la bouffe devient politique.
C'est très bon, très chaud, ce qui est bien par ce temps-là, voilà. Par ce froid-là, c'est bien de manger chaud.
Soupe des quoi ?
Des familles.
Soupe des familles, très bien. Le pain aussi, c'est de la récup.
Ouais. Un gentil boulanger qui nous garde son pain.
Du quartier ?
Du quartier, et qui fait du très bon pain, ce qui est très rare aujourd'hui.
La salade est très bien assaisonnée. C'est vrai, très très bien assaisonnée.
Les carottes sont cuites, les
Rue des Pyrénées, côté 20e, à droite, il y a la rue de la Mare qui descend. Et un peu plus bas, sur le trottoir de droite, il y a un petit local qui paye pas de mine. C'est la cantine des Pyrénées. Et ça s'affaire, là, dès 9h, il y a du monde. Alors l'idée, c'est de faire manger combien de personnes par jour ?
En ce moment, c'est 80. C'est 70-80. Avec l'équipe, ça fait 80.
Alors, qui vient manger à la cantine des Pyrénées ?
Il y a essentiellement quand même des gens du quartier, soit des gens qui... comme Chico, là, qu'on va saluer. Salut Chico.
Ça va ? Je suis sous pour le vent.
Champé. Je vais avoir un café, qu'est-ce qu'après ? Qui galère sur son SDF, là, qui est sur le banc de la rue de la Mare de toute la journée à peu près.
Il y a pas mal de gens comme ça qui sont à la rue, enfin pas mal, il y a une partie qui viennent manger, généralement d'ailleurs en premier à midi, dès que ça ouvre. Il y a des militants aussi.
Ouais, parce que c'est pas les restes du cœur, quoi.
Non, c'est les restes du cœur.
Alors là, les choses sont claires quand on rentre. Ici, à la cantine des Pyrénées, il y a un petit écriteau là sur le comptoir. Ceci n'est pas un restaurant. Chaque jour, 6 personnes ou plus s'inscrivent sur le planning de l'atelier cantine. L'une d'elles est référente, organise des courses, un menu et l'accueil. Là, c'est toi aujourd'hui, hein, Michel, l'un des référents avec Lou, qui prépare la tarte au citron. Au minimum, 60 repas sont cuisinés entre 9h et midi. Le service est de 12h à 14h. Ici, pas de chef cuisinier ni de cadence infernale. La bienveillance est de mise entre les participants. Pas de talent culinaire requis, juste de la ponctualité. Et chacune et chacun peut prendre part à l'atelier.
Prends une petite course.
C'est le bon légume avec le bonnet
blanc. Ouais,
c'est
clair.
C'est dur personnellement. Là, j'ai l'impression que je vais faire de friter avec ça. C'est un sujet tabou.
Dans un bol, mélangez jaune et sucre. Ça c'est fait. Dans la casserole, mettre eau, jus de citron et maïzena.
On y est là.
D'accord, très bien. Préparer à petit feu.
Voilà. Ouais. Donc là, on attend que ça chauffe. Après, il faut transvaser dans le bol où il y a le jaune et les sucres. Et retransvaser ensuite dans la casserole pour refaire chauffer. Là, ça va prendre en crème citronnée.
Voilà, verser mélange 2 sur 1. Donc, la casserole dans le bol.
On a du vocabulaire pointu ici.
En mélangeant à la cuillère en bois.
Tout à fait. Ben, ça, c'est important. On y va.
Alors, Lou, pourquoi tu viens cuisiner ici, toi ?
Parce que déjà, j'aime bien cuisiner, je pense. Et surtout pour faire quelque chose d'utile. En fait, allier l'utile à l'agréable, on va dire. Déjà ça.
Alors là, c'est l'heure de séparer les jaunes des blancs.
Ouais, mais ça, c'est mon truc préféré. C'est parce qu'après, c'est le moment où on va monter les blancs en neige et tout. C'est majestueux parce que quand vous montez 4 blancs en neige, bon, c'est un peu miteux. Mais quand il y en a 32, c'est magnifique. Et très complexe. Donc voilà. Et là, on est un peu stressé parce que c'est pas tarte au citron, c'est tarte au citron meringuée. Et on a essayé une recette de meringue avec Fred hier à la maison. C'était bon, mais ça ressemblait pas à grand chose. Esthétiquement, on va dire. Voilà, donc je sais pas ce que t'en penses. Hein, mais...
Oui.
Voilà, là on va faire mieux, on va essayer.
Et toi, Fred, pourquoi alors tu viens ici séparer les jaunes des blancs? L'idée c'est quand même de se rencontrer ici, c'est pas de séparer les jaunes des blancs, quoi, hein, au départ. Donc c'est quand même assez paradoxal ce que tu fais.
Ça fait longtemps que j'ai entendu parler de la cantine, mais justement dans des milieux militants ou associatifs et tout ça, et donc du coup, je sais pas, ça a mis 5 ans à ce que je vienne, je pense que j'ai entendu parler il y a à peu près 5 ans. Et voilà, et cet été je suis passé devant et je me suis dit, bah, en fait c'est le moment de s'y mettre, voilà. C'est un des trucs que j'aime bien faire dans la vie, de faire à manger, et surtout que ce soit un endroit où on se relie entre nous et tout ça. Et, pour moi la bouffe c'est vraiment le moment où on partage et tout ça, et c'est un des projets, je trouve, les plus simples au niveau politique aussi, parce que je me suis engagé dans plein de trucs politiques où c'était plus faire des réunions, tracter. À un moment, j'avais très envie qu'on débatte des idées, on n'en débattait pas, j'étais hyper frustré. Et du coup, après, je me suis dit, en fait, tout le monde n'arrête pas de se prendre le chou. Et en fait, quand on fait la bouffe, on fait vraiment quelque chose ensemble, et il y a vraiment quelque chose qui se passe au moment où on le fait, quoi. Enfin, on fait quelque chose de concret, quoi.
C'est revenir aux fondamentaux, quoi, quand même. Hein. Partager un repas ensemble et après partager plus, c'est ça l'idée aussi.
Ouais.
Bah, je pense qu'ici, on devient quand même en plus tous assez liés, assez amis, en fait, au fur et à mesure. Après, je trouve que comme a dit Fred, ce qui est bien, c'est que c'est concret et c'est facilement réalisable et c'est simple. Et parfois, les milieux militants, ils peuvent être un petit peu aussi inaccessibles. Pour certains, ça peut être un peu difficile, je trouve, de s'insérer dans le milieu militant quand on débute. Et... du coup, je trouve que la cantine, ça permet de s'insérer dans le milieu militant en suivant, en fait, se sentir un petit peu exclu. Parce que oui, quand on arrive en cours dans une asso, dans ci ou ça, bah, on n'est pas forcément au fait de tout. Donc voilà, c'est un espace simple. Moi, c'est ce que j'aime bien.
Et toi, Marie, pourquoi tu viens ici? Alors, qu'est-ce qui t'amène ici à la cantine, cuisiner?
C'est la troisième fois que je viens. L'hiver dernier, j'habite avenue de Flandre. Et je voyais des tonnes et des tonnes de réfugiés qui étaient installés dehors et je me sentais ultra impuissante et je savais pas du tout quoi faire. Et d'ailleurs, j'ai rien fait cet hiver-là, à part donner quelques vêtements. Et je me suis sentie un peu coupable. Je me suis dit, quand même, c'est un peu con, Marie. Tu te sens concernée et tu fais rien. Et du coup, là, j'ai vu un statut Facebook de Lou qui recherchait quelqu'un pour le mercredi en urgence. J'ai accepté de venir, enfin, j'ai proposé de venir plutôt. Et maintenant, c'est la troisième fois que je viens et bah, je pense que je vais venir tous les mercredis jusqu'à ce que mort s'en suit. Non, je rigole. C'est du partage.
Là ça va aller, on va encore en faire un. Ah, c'est bon là.
C'est bon, ça y est.
Ah ouais, ce qu'il a là, ça va.
Merci.
On va l'utiliser pour le risotto. Et ça, on l'utilisera pour la salade.
Donc,
on prend ça même. Ce qu'il y a là, je pense que ça va le faire.
Ok,
bah, on va faire. Ce qui est en cours là. On va peut-être. Attends, je vais en sortir un peu plus et puis c'est bon.
Encore un petit peu.
Ouais, pour la salade, c'est vrai que.
Pour la salade.
Wow. Comme un bruit qui court
à la cantine.
Samedi à 16h sur France Inter.
Ouais.
Moi je m'appelle Souad.
Bonjour Souad. C'est du boulot hein, de faire à manger pour 60 personnes quoi quand même.
Ouais.
Oui, mais ça se passe très rapide parce que nous on ne demande pas qu'est-ce qu'on va faire. Chacun il prend la responsabilité, il travaille avec tout le monde. Il n'y a pas de chef ici. On est tous chefs, responsables d'un repas. Et j'ai appris beaucoup de choses. C'est comme, on n'est pas une famille, mais on est une grande famille ici. Tout le monde, il connaît tout le monde maintenant. Il y a toutes les tranches d'âge ici, il y a toutes les tranches de société. Il y a des médecins, viennent manger ici. Il y a
des médecins?
Oui, des médecins à côté, viennent manger ici chez nous. Il y a aussi des cadres de bureaux à côté aussi, des pharmaciennes, des voisins, les gens qui travaillent à la poste.
Alors le médecin et les cadres, ils laissent plus de 4 euros. Le 4 euros, c'est le prix indicatif de 4 euros.
Et je crois pas, ils vont venir pour 4 euros, mais ils vont venir justement.
Alors sur le tableau, au fond du local, c'est l'agenda. Samedi 25 novembre, repas de soutien au journal L'Envolée. Nouveau numéro, dimanche 26, repas de soutien aux précaires de l'éducation nationale. Et il y a une expo photo donc de la répression du contre G20 à Hambourg. Le prix coûtant des photos est fixé à 5 euros. L'excédent réservé à la cagnotte pour les copains et copines incarcérés. Si c'est votre première fois, arrêtez-vous au comptoir. Squad, 11h30, on met la table.
Ça y est, on a commencé. Préparation, on a préparé le thé à la menthe. On a fait la vinaigrette, la salade. Et voilà, chacun il a pris sa place. Tout le monde commence à venir, à arriver.
Alors c'est un petit local triangulaire avec quelques néons, quatre grandes tables, et ça y est, c'est l'heure d'installer les couverts. Chacun prendra son couvert et se servira. Ah ben il est midi, ça y est, c'est la sortie des classes quoi.
Là, ils ont senti l'odeur d'ici quoi.
Ben ouais.
Ils pensent que ça sent la pizza, c'est marrant. Quoique c'est du risotto, c'est pas loin. Bonjour, vous allez bien?
Bonjour, santé.
Tiens, il y a Boris.
Oui, Mathias, tu vas bien?
Oui, et
bonjour.
Toi?
Bonjour. Bon, ça commence doucement et après, c'est le coup de feu, là.
Là, ça commence déjà. Tout d'un coup, ils étaient au moins une dizaine, quinzaine, là. C'était tendu, mais hop, ça va se calmer un petit peu.
Il y a combien de gens qui sont inscrits hein?
J'en sais rien du tout. Alors, vraiment, c'est surtout depuis un an et demi, tu vois. Regarde tous les noms qui sont sur le cahier, comme ça. Et là, c'est le début d'un cahier. Donc, il y avait un autre cahier il n'y a pas longtemps. Vraiment, j'ai aucune
idée. Et toi, tu es souvent à l'accueil?
Oui, je suis souvent là en ce moment depuis 2-3 mois parce que j'ai du temps, j'ai beaucoup de temps, je travaille pas et que j'ai envie de me consacrer à tout le monde, à la communauté. Plutôt que chercher du travail, je préfère m'activer, avoir des journées bien remplies, à faire des choses pour les autres, pour la, pour nous tous, quoi, pour l'humain. Pour,
Et là, faire des choses pour les autres, ça passe par la cantine ici, par nourrir, quoi. Ouais, la nourriture, ouais.
Ouais, mais c'est aussi le lien social qui est super important, quoi. Peut-être que la nourriture, c'est aussi un prétexte. Voilà, c'est un espèce de point de départ. Ouais. Ouais, ouais. Tiens, là, par exemple, c'est des nouvelles personnes, peut-être. Je sais pas, on va voir. Bonjour. C'est votre première fois à la cantine ?
Non.
Non ? D'accord. Vous aviez déjà mis votre nom ?
Oui.
D'accord. Donc vous êtes adhérente, vous connaissez. Qui ?
Ça y est.
Alors c'est bon ?
C'est délicieux.
C'est délicieux ?
Ah ouais.
C'est un chef, c'est Michel qui a fait, ouais, ouais, ouais.
Ouais. Franchement, oui, ça chauffe. J'aime bien.
Bon, bah, moi je vais manger aussi alors. Hein. Pas le tout, quoi.
Dis-moi ce que vous voulez comme assiette.
Pareil.
Mélange d'oignons, de tomates,
ouais.
Persil,
ouais.
Doré avec chèvre, sans chèvre.
Avec du chèvre, je veux bien, ouais.
Moi j'ai pas chèvre, je mange pas.
D'accord. Pardon. Alors là, il y a une table qui est réservée pôle santé.
C'est une réunion de rencontre avec le pôle de santé qui est du coup une structure qui est à côté de chez nous, qui est une... Alors pour le détail, je ne veux pas te dire de bêtises parce que justement l'objet de cette réunion c'est aussi qu'ils se présentent et du coup qu'on connaît une meilleure connaissance de leur structure. Mais je crois qu'il y a une maison de santé et un pôle de santé, donc c'est-à-dire un regroupement de médecins et de paramédicaux avec du coup une politique d'une médecine accessible à tous, là, comme j'ai cru comprendre. Mais de nouveau, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, je pense. Mais en tout cas, vu que c'est un acteur local important, on avait le désir de les rencontrer, peut-être pouvoir travailler de manière plus complémentaire avec eux, puisque le public aussi qui vient chez nous est un public pour bonne partie défavorisé, précaire, du coup qui cumule souvent des problèmes économiques, de santé, sociaux, psychologiques. Du coup, voilà l'idée de cette réunion.
Alors la cantine, en fait, c'est le réseau social de proximité, de contact, quoi. On parle de réseaux sociaux maintenant, alors toute la militance se passe par les réseaux sociaux. Ouais. Mais en fait, ici, c'est le fondamental du réseau social, quoi, de proximité. Les gens se retrouvent ici avec l'idée de manger ensemble au départ, mais aussi de tisser tous ces liens, ces rencontres, et avec effectivement les acteurs du quartier, les gens qui vivent dans le quartier, les gens qui sont de passage, mais qui ont une raison de venir ici, au départ, de venir manger, quoi.
L'idée de départ, l'idée politique, quoi, de départ, est de vraiment d'avoir un lieu qui soit en sorte de carrefour entre des activités sociales et militantes, mais des activités sociales avec quand même une idée politique derrière, qui est de dire qu'on est tous... des travailleurs potentiels, en tout cas plutôt dans le camp des prolétaires, et qu'on a tout intérêt à se serrer les coudes, et que voilà, on voit bien ici les besoins qu'il peut y avoir et comment c'est nécessaire de s'entraider, ne serait-ce que pour survivre, quoi, on va dire. Et dans les temps présents et à venir, ce sera sans doute davantage le cas. Et donc un carrefour, puisque comme tu dis bien, les gens peuvent venir ici, du coup, aussi sur des questions de nécessité, donc nécessité alimentaire, mais aussi pour l'accès aux droits, les ateliers d'écriture, d'apprentissage de la langue, qui sont tout ça des questions de nécessité et de survie. Et donc voilà, ça permet vraiment à des gens de... effectivement, des gens qui, on le voit, hein, et peut-être tu le verras, à des gens qui sont tout à fait désocialisés, de reconstruire des liens avec d'autres gens, et puis peut-être de venir grignoter quelques idées, quelques pratiques s'ils le souhaitent, sans leur mettre la pression, parce que là-dessus je pense qu'on réussit, bonjour, on réussit à quelque chose comme ça d'assez flexible, on n'est pas dans quelque chose de, il n'y a pas d'obligation doctrinale. Je pense que là-dessus on met pas du tout la pression aux gens, évidemment, hein. Et bon, voilà, un petit mélange comme ça qui est en train de se construire plus ou moins adroitement, en tâtonnant avec le temps. Voilà, Thibaut du collectif de la cantine. Voilà. Et je suis là depuis l'ancienne cantine, du coup depuis 5 ans. Voilà.
Salut, moi c'est Mathieu.
Moi c'est Eduardo. Nous on le voit plutôt comme un outil mis à disposition des gens du quartier. Enfin, ça fonctionne sur une base autogestionnaire et sur la participation. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont vivre le lieu et. Et c'est plus un outil qui permet justement de développer de l'entraide et développer des solidarités.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et sur le départ du collectif, donc le projet, il va attaquer sa 6e année. On est dans ce local depuis bientôt 2 ans. Et on en a eu un autre avant pendant 1 an et demi, qui était un ancien restaurant qu'on a squatté pendant 1 an et demi. Et l'idée de la cantine, en fait, à la base, on était un groupe de militants à se connaître, à se fréquenter dans les mouvements sociaux, dans les manifs, dans les squads. Et il y avait un constat partagé qu'on fonctionnait beaucoup en vase clos et qu'on voulait s'ouvrir vers l'extérieur. Mais l'ouverture, c'est pour qu'elle ne soit pas juste incantatoire. Il faut qu'il y ait un outil qui permette que ce soit accessible. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas une cantine, puisque ça met tout le monde d'accord. Proposer à manger gratuit ou très pas cher dans un quartier donné, on s'est dit que ça allait attirer du monde. Mais ce qui est important de dire, c'est aussi que la cantine, c'est pas qu'une cantine. On s'appelle la cantine des Pyrénées, mais c'est un projet. Le local, il sert aussi pour des cours de français, il sert pour des permanences juridiques pour les sans-papiers. Il y a un ciné-club, il y a un atelier artistique. On fait des repas de soutien le plus souvent possible, les samedis ou les dimanches midi. On veut que ce soit par nos pratiques que le politique y ressorte. Et on n'a rien inventé dans les années 20, 1920. Il y en avait des dizaines de cantines anarchistes, communistes, populaires, végétariennes, gratuites. Et c'était exactement le but, de que quand on a le ventre plein, on peut réfléchir à autre chose. Et quand on court après la bouffe, on ne fait que ça.
C'est toi qui accueille alors ? C'est vous qui accueillez ?
Alors ? On tourne.
On invente, on mange mais pour de rire. Ici on se nourrit surtout de nos délires. Ce que je vais vous dire reste entre vous et moi. Alors voilà, cap ou pas cap, de faire ça. Faire du trampoline sur un clafoutis.
Je suis cap. Tremper les tartines d'épinards dans ton bol de lait. Je suis cap.
Faire de la corde à sauter avec un spaghetti.
Je suis cap.
Avoir toute ta vie le même âge dans ton verre.
On y va. Ouais. C'est parti ?
Ouais, c'est parti.
Vas-y, c'est quoi la question ?
C'est quoi cette cantine alors, cette cantine des Pyrénées, pour toi qui viens manger ici ?
Régulièrement. On vient sauver nos estomacs, nos âmes, et on les remercie mille fois. Fin de la réponse. Une autre question ?
Et alors, est-ce que c'est une cantine politique ici ?
Tout est politique, monsieur. C'est forcément une cantine politique, mais pas que. Économique, sociale, libertaire, pensée, redoutée. Pourquoi ? Est-ce qu'elle dérange cette cantine ? Elle dérange quelqu'un ? C'est politique. À vous.
Et toi, tu viens depuis quand ici, alors, manger ?
Depuis maintenant, presque chose comme un petit mois. Je viens pas tout le temps non plus, hein. Mais depuis un petit mois, même deux mois, je suis là.
Et comment t'as découvert cet endroit, alors ?
Moi, je vis sur la rue. Je suis aux Envierges. Je vais bientôt être mis dehors. Donc, je prends mes précautions.
Et du coup, t'as pris des tours déjà ? Tu participes aussi à la cuisine, etc.
Non, m'a rien demandé de ce côté-là. Il vaut mieux pas, non. Je suis pas doué en cuisine.
Ah bon ? Et en plonge, peut-être ?
Ouais, ça, je sais le faire, mais on m'a rien demandé. Si on me le demande, je le fais, il n'y a pas de souci.
Ah non, je crois qu'ici, il faut proposer.
Eh ben, je suis d'accord. Dès demain.
Bon, ben, voilà.
Rendez-vous à quelle heure ?
Donc, tu manges et puis après, au lieu de partir, tu restes une demi-heure à faire la vaisselle, par exemple.
Ça marche. Bon, bah, je serai là demain.
Bon, bah, super.
Voilà.
Merci, bonne appétit.
Je vais manger chaud. Bah, je te remercie. Au revoir.
Et dimanche, il y a un super film à 18h.
Ouais.
Venez danser. Super film, Ben Dali. C'est un Ben Dali.
Mais oui, c'est un super film. Oui, ouais.
C'est bien.
Ouais.
C'est sympa, c'est grand écran ici.
Allez, merci. À bientôt. Il y a
aussi le dimanche. Ouais. Il y a les filles.
Valérie,
c'est à quelle heure
dimanche ?
18h.
Tout le monde a payé là ?
Ouais. Allez, ciao. Salut.
Allez, si vous êtes dans le 20e à Paris, poussez la porte de la cantine des Pyrénées rue de la Mare. Et demain dimanche, c'est Ciné-Club. On ira aussi bientôt à Marseille pour une rencontre des cantines avec la cantine de solidarité des copains et copines qui fait chauffer ses fourneaux tous les deuxièmes mardis du mois. Et à Calais, rencontrer les Refugees Community Kitchen qui prépare des milliers de repas tous les jours et qui vient de fêter ses 2 ans d'existence aujourd'hui.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, franceinter.fr. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux que le bruit court, hashtag comme un bruit. Il me reste quelques secondes pour vous conseiller d'aller au Salon du Livre des lanceuses et lanceurs d'alerte le 2 et 3 décembre à la Maison des Métallos.